Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel nous parlerons de l'un des favoris du prochain, entre guillemets, conclave moderniste. Et j'en profiterai aussi pour faire certaines mises au point et pour parler de l'actualité spirituelle. Avant tout cela, comme vous le savez, quelques petites annonces pour réagréger la qualité françoise. D'abord, si vous cherchez un bouquin et que vous êtes en Île-de-France, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, justement. Et il s'avère, 202 rue Lecourbe, et il s'avère, chers amis, que je ferai une conférence à la librairie française, dans le cadre du cercle d'Alain Pascal, créé par Alain Pascal, qui s'appelle le cercle catholique antimoderne. Et cette conférence aura pour thème « Pourquoi le cévacantisme ?» Voilà. Je divulgâche parce que la foi catholique, tout simplement. Mais je développerai. Donc, conférence de votre serviteur à la librairie française le vendredi 4 avril à 18h30. Voilà. Dans le cadre du cercle catholique antimoderne d'Alain Pascal, et je remercie Alain de son invitation. Ensuite, si vous cherchez mon bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis, sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Il s'avère que le catéchisme du chanoine Moisset, que j'ai souvent loué à ce micro, est réédité. Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez un bon catéchisme en complément du catéchisme de Saint-Pie-X et du catéchisme de Concile de Trente, vraiment, je vous recommande le catéchisme du chanoine Moisset. Par ailleurs, les vrais peuvent aller sur le site des éditions L'Estocade, et vous trouverez notamment Parole de Pape, que nous allons utiliser ce soir, pour réfuter quelques contradicteurs, et sa dernière publication, qui est l'ouvrage d'Henri Dutré-Crozon sur Gambetta, pour comprendre comment Gambetta nous a conduit au désastre en 1870. Nous allons aussi vite que possible, chers amis, concernant mon bouquin consacré à l'histoire de Vichy. C'est pas seulement Pétain, ça sera vraiment plus large. C'est un ouvrage dont je suis fier, je vais pas vous mentir, et qui permettra de mettre des coups bien placés. Voilà. On en reparlera très 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 longuement. Aussi, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Défense de la Foi. Nous vous avons mis les dernières vidéos en description. Alors, il y en a différentes. De mémoire, il y a une vidéo qui s'appelle « Pourquoi les traditionalistes ?» ou « Comment les traditionalistes ont perdu la foi ?» Il y a « L'abbé Raffray et les tendances hétérosexuelles ». Il y en a une qui s'appelle « Le courage de Mgr Vigano » qui est relative à la déclaration qu'il avait faite, au long texte qu'il avait fait, lorsqu'il a été accusé de schisme, prière de ne pas rire, par Bergoglio. Et la toute dernière est consacrée à ma réfutation des hérésies professées par les capucins de Morgon pour défendre la secte moderniste. J'observe un certain nombre de commentaires extrêmement rageux. Mes chers amis qui commentaient de façon rageuse, vous nous opposez des réactions émotionnelles. Nous, on parle de doctrine. Et vous, vous vomissez, pardon, il n'y a pas d'autre mot, des réactions émotionnelles, je dirais presque névralgiques. C'est pas sérieux. Nous parlons doctrine. Répondez doctrine. Si nous nous trompons, eh bien, essayez de nous le démontrer. Et vous n'allez pas nous convaincre en pleurant, en nous disant qu'on est des gros méchants, qu'on se trompe. Nous citons le magistère de l'Église, donc on ne se trompe pas par définition en matière de foi et de mœurs. Bref, tout cela est le signe d'une très grande fébrilité psychologique de la part de nos adversaires. De nos ennemis, disons-le, puisque toute personne qui donne une légitimité catholique à la secte moderniste est un ennemi pour les catholiques et pour l'Église. Bon. Donc je vous invite, si vous ne les avez pas vus, chers amis, à aller sur la chaîne YouTube Défense de la Foi et à voir ces vidéos qui sont hautement pédagogiques. Voilà, qui ne sont pas perdues dans l'océan de ces longues émissions. Ensuite, comme vous le savez, nous faisons des appels aux dons. Alors, appel aux dons pour des écoles, école des Trois-Saint-Jean, en Belgique, Notre-Dame Auxiliatrice, dans la commune de Béton, en Bretagne, et pour l'école Sainte-Expédite, à Guingamp. N'hésitez pas aussi à faire un don, si vous le pouvez, pour nos amis du monastère de l'Œuvre de l'Étoile. Voilà, alors ensuite, je vous ai annoncé comme événement le fait que je ferai une conférence dans le cercle d'Alain Pascal, donc le cercle catholique antimoderne, le Qatarville prochain, qui s'appellera « Pourquoi le cédévacantisme ?». Autre événement auquel je participerai, le 29 mars prochain, la fête des Amis d'Alain Pascal, donc c'est au métro Wagram, 4 rues, j'ai plus le nom de la rue exacte, c'est Brémontier, Pierre-Othiermont, attendez, dans le 17e, comment elle s'appelle cette rue? Où est-ce que je vais vous trouver ça? 4 rues, ouais c'est ça, 4 rues Brémontier dans le 17e, métro Wagram. Donc c'est une signature d'auteur, il y aura une dizaine d'auteurs, dont votre serviteur, dont Pierre Joly. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, nous serons entre bons François. Et je vous le dis aussi, l'événement annuel de Catholique de France aura lieu le dernier week-end de juin, donc de mémoire c'est 28-29 juin. Voilà. Alors également, le lien est en description, un pèlerinage au Puy-en-Velay est organisé. Donc c'est du 9 au 11 mai, voilà. Donc c'est un pèlerinage organisé par des catholiques, donc de position non nunquam. Et si vous voulez vous renseigner, si ça vous intéresse, il y a un lien qui mène à l'association Pèlerins Notre-Dame de France. C'est cette association qui organise le pèlerinage, voilà. Donc si vous voulez leur donner un petit coup de pouce financier pour organiser des pèlerinages, j'allais dire partout en France, eh bien ma foi, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez une petite force de frappe financière, tout ça c'est au service de l'Église, il faut en profiter. Voilà, donc je résume, 29 mars, fête des Amis d'Alain Pascal, 4 avril, conférence de votre serviteur qui s'appelle « Pourquoi le cédévacantisme ?» Du 9 au 11 mai, pèlerinage au Puy-en-Velay. Et le dernier week-end de juin, donc 28-29 juin, événement de Catholique de France. Et normalement, je devrais y participer également. Voilà. J'espère que je n'oublie rien. La tradition veut que j'oublie toujours d'annoncer des choses. Donc n'hésitez pas, hein, aussi, je me répète, à aller un petit peu sur le site Défense de la Foi. Ce sont des petites vidéos pédagogiques qui aident à professer la vérité. Alors, on va attaquer. Alors, tout d'abord, je voudrais faire, chers amis, une petite mise au point, afin de vous démontrer que mes détracteurs sont prêts à raconter n'importe quoi, jusqu'à se contredire eux-mêmes dans un espace-temps extrêmement court, pour me dénigrer et porter atteinte à ma réputation, le tout en vue, toujours, d'éviter le fond du débat, vous voyez. C'est comme les réactions émotionnelles que je vous évoquais tout à l'heure. Toujours éviter le fond du débat. Pourquoi? Parce que nos détracteurs savent que sur le terrain des faits, sur le terrain du dogme, ils sont vaincus. Donc il ne reste que la médisance et les sophismes opposés. Donc, lors de ma dernière émission, eh bien, nous avons vu deux choses. Nous avons vu que, premièrement, pour la première fois, une femme, officiellement, avait célébré la pseudo-messe Paul VI au Brésil, dans une messe parfaitement solennelle. Nous avons vu également que Bergoglio professait des hérésies, entre guillemets, ex cathedra, dans son pseudo-magistère, où il aurait dû être infaillible s'il avait été pape, chose qu'il n'est pas. Et de tout cela, eh bien, je concluais que toutes ces hérésies auxquelles Bergoglio adhère, puisqu'il les professe, nuisaient à son âme, ce qui est une évidence, puisque, comme nous l'enseigne l'Église, l'hérésie sépare de l'Église. Tout ceci a fait bondir un troll de la fraternité Saint-Pédis qui se fait appeler sur Internet « Jeune réactionnaire », qui donc est venu s'insurger pour défendre l'orthodoxie de Bergoglio. Arrêt sur image. La fraternité Saint-Pédis en est là, en 2025, à défendre l'orthodoxie de Bergoglio. On se souvient que M. l'abbé Frédéric Veil de la fraternité Saint-Pédis avait déjà aidé Lavagna, Mathieu Lavagna, dans son débat contre moi. La fraternité Saint-Pédis en est là, chers amis. C'est l'un des plus grands boucliers de la secte moderniste contre les attaques des catholiques. Je le dis parce que je l'observe. Bref, ce jeune réactionnaire m'accusait, citation, de me placer sur le terrain de Dieu lorsque j'affirme que l'âme de Bergoglio est abîmée par ses hérésies. D'ailleurs, chers amis, priez pour ce pauvre Bergoglio pour qu'il se convertisse sur son lit d'hôpital. Selon donc mon détracteur léphébriste, n'étant pas juge du fort interne de Bergoglio, je n'aurais pas le droit de faire pareille affirmation. Pierre-Tirmont, s'il vous plaît, pouvez-vous afficher la pièce A ? Voici le commentaire très intéressant qui a été laissé par ce jeune membre de la fraternité Saint-Pédis. Citation. Quand Abosi parle de maladie de l'âme, il se place sur le terrain de Dieu. Retenez bien cette formule. Hein. D'ailleurs, c'est pas tout à fait le mot maladie de l'âme, mais passons. Quand Abosi parle de maladie de l'âme, il se place sur le terrain de Dieu, nous dit mon détracteur. En réalité, mon détracteur fait une confusion assez grossière entre deux notions que, semble-t-il, il ne maîtrise pas. L'âme et la conscience sont deux choses différentes. L'âme, c'est la substance spirituelle de l'individu. La conscience, c'est la connaissance immédiate que l'on a de sa propre activité psychique. Une personne qui est aliénée n'a pas de conscience à proprement parler au sens où nous l'entendons, mais pour autant, elle a une âme. Donc ce sont deux choses totalement différentes. Mais ça, notre jeune réactionnaire ne le sait pas, on ne lui a pas appris à la fraternité Saint-Pédis. Bref, il est bien entendu parfaitement normal, et on peut parfaitement dire, que l'âme d'un hérésiarque est dans de mauvaises dispositions. Dieu étant par ailleurs seul juge de son fort interne, mais le fort interne, donc la conscience et l'âme, je le répète, ce sont deux choses totalement différentes. Et là, nous allons rigoler, chers amis. On se souvient donc que mon détracteur avait dit que lorsque je parle de maladie de l'âme, ce serait soi-disant se placer sur le terrain de Dieu. Or, qui, sur X, quelques heures plus tôt, avait écrit ceci, Pierre-Tirmont, s'il vous plaît, mettez la pièce B, on dit qu'il avait dit que le cédévacantisme est une maladie de l'âme. Donc qui, selon le raisonnement et les termes du jeune réactionnaire, qui se plaçait sur le terrain de Dieu ? Réponse, le jeune réactionnaire. Prière de ne pas rire. Donc, selon ses propres termes et selon son propre raisonnement, en parlant de maladie de l'âme, ce jeune réactionnaire se plaçait sur le terrain de Dieu. Et il pratiquait ce qu'il me reprochait. Nous sommes là dans un sommet de tartufferie ou d'aveuglement, chers amis. Mais n'étant pas juge du fort interne, je ne me prononce pas sur quelle hypothèse est la vraie. En tout cas, c'est l'un des deux cas. En tout cas, mon cher jeune réactionnaire, vous vous êtes mis échec et mat tout seul comme un grand. Voilà. Pourquoi vous dire tout cela, chers amis ? Parce que je veux bien vous montrer que l'essentiel pour mes détracteurs n'est pas de dire la vérité. J'en veux pour preuve que l'intéressé se contredit en l'espace de quelques heures. L'essentiel pour mes détracteurs, c'est de porter atteinte à ma réputation afin de ne pas aller sur le terrain doctrinal et factuel. Parce que s'ils vont sur ce terrain, ils sont finis. Leur imposture est finie. Donc il ne leur reste que, comme je vous l'ai dit, la médisance et les sophismes. Voilà. J'en ai terminé sur ce point. Alors, je voulais aussi... on va poursuivre sur la fraternité Saint-Pédis, puisqu'on y est. On m'a chuchoté des choses dans l'oreillette. Bon, d'abord, ça c'est officiel, il y a eu une université, alors c'est pas d'été, mais c'est, je sais pas comment on dit, d'hiver. Il y a eu un événement, en tout cas, organisé par la fraternité Saint-Pédis, consacré au sacre. Mais, on m'a glissé dans l'oreillette, chers amis, que Monseigneur Felet et Monseigneur de Galaretta étaient résolus à ne pas sacrer. Pourquoi ? Parce que s'ils sacrent, ils se feront, entre guillemets, excommuniés par la secte moderniste, et ça, ils ne le veulent à aucun prix. Pourquoi ? parce que déjà ils sont convaincus que la secte moderniste est l'Église catholique, et parce que la stratégie de la fratrie Saint-Pédis, c'est d'aller en enfer pour y convertir le diable. Bon courage. Bon courage. On voit où ça mène. Aujourd'hui, on a des gens comme Jeune Réactionnaire qui défendent l'orthodoxie de Bergoglio. Autrefois, le leféruste de base était quasi cédévacantiste. Aujourd'hui, le leféruste de base est quasi conciliaire. J'en veux pour preuve que, de ce que je sais des jeunes générations de la fratrie Saint-Pédis, beaucoup font la navette entre le Novus Ordo et, en tout cas, entre les ex-communautés Ecclesiae Dei et la fraternité Saint-Pédis. Voilà. Alors qu'avant, c'était impensable pour un membre de la fraternité Saint-Pédis. Donc on voit bien qu'il y a un attiédissement progressif et un rapprochement avec le modernisme qui s'accentue d'année en année. Ceci étant posé, un grand nombre de fidèles et de prêtres de la fraternité Saint-Pédis veulent sacrer. Donc là, il y a une tension interne dans la fraternité Saint-Pédis. Que va-t-il se passer à terme si cela continue? Ben moi, je vais me risquer au jeu de la prévision. Je pense qu'un certain nombre de prêtres de la fratrie Saint-Pédis rejoindront Monseigneur Vigano quand celui-ci aura officiellement ouvert son séminaire. Voilà. Je pense. Et tant mieux, parce que tous ces prêtres de la fratrie Saint-Pédis qui n'ont pas osé être publiquement cédévacantistes à l'époque, eh bien, finiront par officiellement être cédévacantiste en rejoignant Monseigneur Vigano. Voilà. Ensuite, autre point d'actualité spirituelle, concernant Maria Valtorta, même la secte moderniste, chers amis, a nié le caractère surnaturel des textes de Maria Valtorta. C'était évident pourquoi la révolution est close avec la mort de Saint Jean, plus personne n'a quoi que ce soit à apporter. Donc, Maria Valtorta ne pouvait pas avoir, entre guillemets, des scoops concernant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas possible. Voilà. Donc, Maria Valtorta avait été condamnée par le Saint-Office dans les années 50. Donc, déjà, les catholiques auraient dû s'éloigner de ces livres. Mais là, même la secte moderniste, maintenant, vous dit que c'est pas surnaturel. Pourquoi je fais cette mise au point ? Parce que, chers amis, n'allez pas croire qu'il n'y a que les progressistes tendance par Mathieu qui lisent Maria Valtorta. Absolument pas. Beaucoup de tradis lisent Maria Valtorta. C'est le cas de l'abbé Guy Pagès, qui a fait des vidéos à ce sujet. C'était le cas de Monseigneur Williamson. Et c'est encore le cas aujourd'hui de l'abbé Saint-Lave qui fait des vidéos pour défendre Maria Valtorta. Voilà, donc Maria Valtorta, c'est poubelle, chers amis. Poubelle. C'est pas compliqué. L'année dernière, dans une séance de dédicace, j'avais discuté avec une dame qui était revenue sur l'émission que j'avais faite avec Guillaume von Hassel sur Marthe Robin et Maria Valtorta. Et la conclusion de cette émission était simple, c'était Marthe Robin, Valtorta, poubelle. Et cette dame, par ailleurs très sympathique, me disait « Mais monsieur Abosi, Maria Valtorta, ça a touché mon cœur. » Oui, chère madame, si vous m'entendez, c'est pas un critère de vérité. L'émotion n'est pas un critère de vérité. Donc Maria Valtorta, c'est démoniaque, c'est poubelle. Voilà, c'est pas compliqué. Et ceux qui n'en sont pas convaincus, eh bien je vous renvoie à cette émission que nous avons faite donc, avec Guillaume von Hassel. Écoutez l'intervention de Guillaume sur Maria Valtorta. Voilà, c'est sans appel. Donc, je voulais également vous lire un petit message Facebook que j'avais fait il y a quelques jours de ça, et qui était, je crois, une bonne synthèse. J'écrivais ceci. Sans polémiquer, se dire catholique, sans être cédévacantiste, c'est affirmer que, deux points. Premièrement, l'Église et la papauté peuvent professer l'hérésie ex cathedra pendant des décennies. Deuxièmement, l'Église peut se contredire en matière de morale sur la peine de mort, l'éducation sexuelle et l'incinération. L'Église approuve infailliblement la moralité de la peine de mort, la secte moderniste condamne infailliblement la peine de mort. Entre guillemets, hein, infailliblement dans le cadre de la secte moderniste. L'Église condamne l'éducation sexuelle et l'incinération des corps. La secte moderniste promeut l'éducation sexuelle et l'incinération des corps. C'est soutenir également donc que l'Église peut bénir des couples homosexuels. Donc on se souvient que dans Fidus Supplicans, on autorise la bénédiction des couples homosexuels, donc dans la secte moderniste, il y a un rite homosexualiste. C'est-à-dire que dans votre Église, conciliaire et lefévriste, il y a un rite homosexualiste. Et ça, vous ne pose pas, ça ne vous pose aucun problème. Rite homosexualiste, dont on reparlera dans un instant. Quatrièmement, c'est affirmer qu'une femme peut célébrer la messe. Je rappelle que dans la messe d'intronisation d'un archevêque au Brésil, enfin messe entre guillemets, parce que c'était une pseudo-messe Paul VI, une femme a célébré, elle a concélébré. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec elle, il y avait 80 prêtres et plusieurs évêques. Et aucun d'entre eux, voyant la bonne femme participer au processus, n'est venu lui tapoter sur l'épaule en lui disant « Mais au fait, qu'est-ce que vous faites là, quoi ?» Aucun. Pourquoi ? Parce que pour ce clergé moderniste dit conciliaire, c'est normal. C'est orthodoxe. C'est dans les clous. Voilà. Donc je répète que selon la secte moderniste, une femme peut célébrer la messe. Ensuite, c'est affirmé que l'Église peut canoniser des hérétiques nestoriens et monophysites. Je rappelle que Bergoglio, il y a quelques mois, a canonisé le nestorien Isaac de Ninive. Et je rappelle que Wojtyla Jean-Paul II a canonisé le monophysite Grégoire de Narek. Bergoglio en a remis une couche et a fait de ce Grégoire de Narek un docteur de l'Église. Le type a jamais été catholique et c'est un docteur de l'Église. C'est formidable. Hein, au même titre que Saint Alphonse de Ligorie, Saint Robert Bellarmin, etc. C'est dire que les personnes en état de péché mortel peuvent recevoir la communion, puisque Amoris Laetitia nous dit que les personnes divorcées, remariées, vivant en concubinage, peuvent vivre en état de grâce. Étonnant. C'est dire que catholiques et méthodistes ont la même foi. Bergoglio l'a affirmé mot pour mot en décembre dernier. C'est dire que l'Église peut abandonner ses sacrements pour les remplacer par des rites invalides. Et c'est dire enfin que le Parti communiste chinois peut choisir, peut nommer les évêques de l'Église catholique. C'est fort de café. On en reparlera tout à l'heure. Bref, on voit bien que c'est pas sérieux, c'est franchement pas sérieux que de se dire catholique lorsqu'on n'est pas cédé-vacantiste, chers amis. Bon. Et je m'adresse à vous, conciliaires et lefévristes. Pourquoi voulez-vous garder le nom d'une religion que vous ne professez pas, que vous ne pratiquez pas et que vous combattez? Pourquoi vouloir vous emparer de ce nom? Ayez la franchise des protestants. Renoncez au nom catholique. Vous ne professez pas la religion catholique, vous ne pratiquez pas la religion catholique et vous combattez par vos hérésies et vos sophismes la foi catholique. Abandonnez ce nom. Vous n'en avez pas le fond, alors pourquoi en réclamer la forme? Bref. Avant d'arriver au principal sujet du jour, je voudrais aussi m'arrêter sur un phénomène que j'ai souvent observé, à savoir le fait qu'une personne parfaitement intelligente et sensée peut lire un texte dont le sens est parfaitement clair, mais donner à ce texte un sens autre, voire même un sens contraire. Je vais vous parler de trois cas qui sont du vécu. Le premier cas concerne la bénédiction des couples homosexuels par la secte moderniste. Dans le fameux texte Fiducia Supplicans, étant précisé que la clarification qu'il y a eu derrière n'a strictement rien changé à la substance de Fiducia Supplicans et confirme que l'on peut bénir des couples homosexuels. Bon. Récemment, il est arrivé à un de mes amis ce qui m'est arrivé lorsque j'ai débattu face à Mathieu Lavagna. Son contradicteur lui a donc soutenu que le texte de Fiducia Supplicans, qui, je le répète, a instauré un rite homosexualiste, donc ce texte serait, nous dit-il, simplement ambigu. Simplement ambigu. Or, on se souvient que le texte, en réalité, est parfaitement clair. Si clair que lorsque je l'ai opposé à Mathieu Lavagna lors de mon débat face à lui, alors que Mathieu Lavagna défendait ce rite homosexualiste, lorsque je lui ai lu ce texte, il m'a dit « Taisez-vous », parce qu'il ne fallait pas admettre le réel. Alors voyons, chers amis, s'il y a quelque chose d'équivoque ou de pas clair dans ce texte. Puis retirons, s'il vous plaît, pièce numéro 1, je vous prie. Donc tout d'abord, vous observez qu'il y a un intertitre. Parfaitement clair. Bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Il y a une affirmation parfaitement nette d'un principe, bénédiction des couples homosexuels. Poursuivons. Citation. Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Il est possible de bénir les couples de même sexe. En quoi est-ce ambigu ? En quoi est-ce équivoque ? Réponse, en rien. Sujet, verbe, complément. Tout le monde comprend le sens de la phrase. Il est possible de bénir des couples homosexuels. C'est parfaitement clair. Ce texte autorise non pas la simple bénédiction des personnes prises individuellement, mais la bénédiction des couples homosexuels. Donc il est possible de bénir un lien homosexuel, donc c'est une bénédiction de l'homosexualité. Et qu'importe si dans d'autres textes on nous dit que l'homosexualité est toujours un péché. Vous bénissez, vous modernistes, ce que officiellement vous considérez comme un péché. D'ailleurs, votre catéchisme, il n'est pas si clair que ça à ce sujet. Là-dessus, le père Mathieu, contre vous, n'avait pas totalement tort. Parce que de mémoire, votre catéchisme dit que c'est intrinsèquement désordonné, mais ça ne suffit pas à dire que c'est un péché. Parce qu'un individu peut avoir des comportements désordonnés sans tomber dans le péché. Donc ce sont deux choses différentes. Bref, fifa supplicans autorise de façon incontestable, n'en déplaise à mes contradicteurs, la bénédiction des couples homosexuels, ce qui est une preuve évidente que la secte moderniste ne peut pas être l'Église. Mais est-ce que vous imaginez Saint-Pie X bénir des couples homosexuels, chers amis ? Franchement, quoi. Vous imaginez Saint-Pie V, Saint-Pierre bénir des couples homosexuels ? Franchement. Mais qui peut oser dire ça ? À part un non-catholique. Bref. Donc, nos contradicteurs ne savent plus lire quand ça les arrange. Le deuxième cas concerne l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. C'est un de nos grands combats à ce micro, l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, qui est nié par les tradis. Un jour, j'ai eu un débat sur Facebook, un échange musclé, contre un moderniste de tendance conservatrice Ecclesia Dei. Ce moderniste était à l'époque le responsable d'un parti politique qui s'appelle le Parti de la France. Bon. Et l'intéressé était très fier et très sûr de lui lorsqu'il m'assénait que le magistère ordinaire de l'Église n'était pas infaillible. Et moi, je lui posais la question, mais d'où vous sortez ça, en fait, quoi ? Mais qui vous a mis ça dans le crâne ? C'est criminel, on vous fait perdre la foi en vous disant ça. Puisque vous niez l'infaillibilité pontificale, vous niez un dogme, donc vous perdez la foi. Bon, il n'a pas voulu me répondre. J'ai appris par la suite qu'il était proche des communautés ecclésiadéiques. Mais à l'époque, qu'a-t-il fait ? Il m'a opposé un passage de l'encyclique de Pie XII, Humani Generis. Ce passage que je ne cesse de vous citer d'émission en émission, chers amis. Donc est-il exact que dans ce passage, que nous allons lire ensemble, Pie XII nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église ? La réponse est négative. Dans ce passage, Pie XII met le magistère ordinaire sur le même plan que le magistère extraordinaire, le magistère suprême. Or, personne ne conteste que ce magistère suprême est infaillible en matière de foi et de mœurs. Donc, si les deux magistères ont la même autorité, le magistère ordinaire est infaillible en matière de foi et de mœurs. Pierre Thiron, s'il vous plaît, soyez un vrai et mettez-nous la pièce numéro 2. Alors, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Voilà. Donc, on va lire ensemble ce texte. Donc, dans ce texte, Pie XII nous dit que les encycliques relèvent du magistère ordinaire et que pour le magistère ordinaire vaut aussi la parole du Christ qui vous écoute m'écoute. Donc Pie XII nous dit « Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les encycliques n'exige pas de soi l'assentiment sous prétexte que le pape, que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. » Donc sous prétexte que les papes n'exercent pas le magistère extraordinaire de l'Église. C'est ça que nous dit Pie XII. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, donc l'enseignement des encycliques. Et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute, m'écoute. Donc, la parole qui vous écoute, m'écoute, vaut pour le magistère extraordinaire de l'Église, ce que Pie XII appelle en l'espèce le pouvoir suprême du magistère. mais cela vaut aussi pour le magistère ordinaire. Qu'y a-t-il de compliqué à comprendre? Et d'ailleurs, tous les commentateurs de l'époque l'ont compris ainsi. Personne, en lisant ce texte, n'a un jour dit « Pie XII enseigne que le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible ». Donc mon contradicteur, en lisant ce texte, mon contradicteur qui n'est pas plus bête que n'importe qui, en lisant ce texte, en a compris l'inverse de son sens. Pourquoi? Parce qu'il y a un biais dans son esprit qui lui empêche de voir les vérités qui le dérangent. Et l'infaillibilité magistère ordinaire de l'Église dérange pourquoi? Parce que si on l'admet, on est obligé de devenir sédévacantiste puisqu'on observe que les pseudo-papes modernistes n'ont cessé de professer l'hérésie dans le cadre de leur magistère ordinaire. Voilà. Le troisième cas concerne la condamnation du national-socialisme par Pie XI. Alors, sur les réseaux sociaux, on trouve parfois des catholiques qui se disent catholiques et nationaux socialistes. Bon, étonnant. Étonnant pourquoi? Parce que Pie XI, dans Mitbrennerzorge, a très clairement condamné le national-socialisme. Mais les intéressés nous disent que non, ce qui a été condamné, c'est seulement des tendances de l'idéologie ou du régime, mais c'est pas le régime ou l'idéologie en tant que tel. Bah voyons. Manque de chance pour eux, dans une allocation du 2 juin 1945, Pie XII a très clairement confirmé que Pie XI condamne dans Mitbrennerzorge le national-socialisme. Et Pie XII, au passage, recondamne à son tour le national-socialisme. Étant précisé que, je suis désolé, j'ai pas la référence ce soir, j'essaierai de vous l'apporter la prochaine fois, mais dans un texte de 1938, au sujet de la croix gammée, Pie XI parle de croix ennemie. Alors que nous dit en attendant Pie XII dans cette allocution que vous pouvez retrouver dans les actes du magistère de l'Église, dans leur version officielle, que nous dit-il au Sacré Collège des Cardinaux le 2 juin 1945? Citation. Dans son encyclique, pièce numéro 3, s'il vous plaît, Pierre, excusez-moi. Donc, Pie XII nous dit, dans son encyclique Mitbrennerzorge, Pie XI révéla au monde ce que le national-socialisme était réellement. Deux points. L'apostasie orgueilleuse de Jésus-Christ. Adhérer au national-socialisme, c'est un acte d'apostasie, nous dit Pie XII. La négation également de sa doctrine et de son œuvre rédemptrice, le culte de la force, l'idolâtrie de la race, etc. L'Église reconnaît l'importance de la race, en revanche, elle ne veut pas que l'on idolâtre la race. Donc Pie XII vous dit que le national-socialisme, c'est l'apostasie et c'est la négation de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus loin, il évoque l'incompatibilité de la conception national-socialiste et de la doctrine chrétienne. Il évoque, citation, le danger auquel le national-socialisme expose la civilisation chrétienne. Il évoque également l'opposition radicale entre l'État national-socialiste et l'Église catholique. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre là. Et il conclut en évoquant que 3000 prêtres polonais, pour l'essentiel, ont été internés au camp de Dachau et que 2000 prêtres sont morts, chers amis. Et notamment un évêque, je crois, est mort aussi dans ce camp. Voilà. Donc l'Église, on ne peut plus clairement, condamne le national-socialisme. On ne peut pas se dire sérieusement catholique quand on est national-socialiste. De même qu'on ne peut pas se dire catholique et communiste. C'est pas possible. C'est pas possible, il faut choisir. Voilà. Voilà, donc je voulais revenir, chers amis, sur ce phénomène curieux, selon lequel, eh bien, des personnes qui ne sont pas plus bêtes que vous et moi arrivent à ne pas donner un texte dont le sens est clair, son sens véritable. Pourquoi? Parce que les gens qui défendent un parti pris n'ont pas intérêt à croire à la vérité, mais simplement, ils ne croient que ce en quoi ils ont intérêt à croire, et ils ne croient pas en la vérité à elle seule. Voilà. Le critère ultime pour la conversion, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut le vouloir. Les gens qui ne le veulent pas trouvent toujours des biais, trouvent toujours des sophismes, vous voyez, pour bifurquer, pour tortiller, et voilà. Donc quand on se convertit, eh bien ma foi, on accepte l'enseignement de l'Église tel qu'il est, on ne rajoute rien, on ne retire rien. Voilà.
C'est le 6 décembre 38 que Pie XI, face à des journalistes belges, parle de cette croix ennemie.
Pierre de Tirmont est un vrai, chers amis. Là, on en a la preuve en direct. Hein. Pierre de Tirmont est un vrai. Il me coupe l'herbe sous le pied. Bravo, Pierre de Tirmont. Je vous remercie. Donc, on ne peut pas être catholique et national-socialiste. Voilà. Bref, nous arrivons maintenant au sujet, au principal sujet du jour. Donc, comme vous le savez, si l'on en croit les médias, les jours de Bergoglio sont comptés. Et donc, priez pour ce pauvre homme. Hein. Et il est lieu de croire donc que, sous peu, s'ouvrira un conclave entre guillemets moderniste, d'où il ressortira, sauf intervention du bon Dieu, qui, à moins que le bon Dieu empêche la tenue de ce conclave et que la crise soit résolue, mais très franchement, je ne crois pas que ce soit pour tout de suite. Hein. Donc un conclave moderniste va avoir lieu, d'où il ressortira un nouveau faux pape moderniste, comme on les a vus depuis Roncalli Jean XXIII. Donc la question qui se pose à nous, c'est qui ? Qui sera le successeur de Bergoglio ? Et là, c'est compliqué, parce que c'est pas une science exacte. Rappelez-vous qu'en 78, Luciani, Jean-Paul Ier, avait été élu à la place de Vostila. Je pense que c'est ce qui lui a coûté la vie. Au-delà des personnes, il faut nous interroger sur les courants représentés par les cardinaux. Étant précisé que 80% des cardinaux, à peu près, me semble-t-il, aujourd'hui, alors mettez des guillemets à cardinaux, hein, parce qu'ils ne sont pas plus cardinaux que Pierre de Tirmont, hein, ces gens-là, hein, mais 80% des entre guillemets cardinaux modernistes ont été nommés par Bergoglio. Donc, le prochain faux pape moderniste sera une créature de Bergoglio. Bon. Alors, il y a différentes tendances parmi les cardinaux, mais il y a un tronc commun. Quel est ce tronc commun ? Ce tronc commun, c'est que tous ces pseudo-cardinaux sont modernistes. Ils pensent que le dogme évolue en fonction du temps et des contextes, et ils pensent qu'il y a une fusion entre le naturel et le surnaturel, et que la grâce sanctifiante, donc, est naturelle. Et ceci est le salut, et le fondement, pardon, du salut universel. Premier pilier, le modernisme. Deuxième pilier, sauf chez quelques rares cardinaux conciliaires conservateurs, l'homosexualisme. C'est-à-dire que ces gens-là veulent à tout prix faire de l'homosexualité une norme, au même titre que l'hétérosexualité. Ils veulent à tout prix banaliser l'homosexualité. Ils parlent tout le temps de ce sujet. C'est effrayant. Effrayant. Et jamais pour inciter les homosexuels à abandonner leurs mœurs et à se convertir. Jamais. Toujours pour leur dire de persévérer dans le faux. Bon. Bref, ce qui différencie les cardinaux modernistes entre eux, ce sont les modalités par lesquelles ils professent, par lesquelles ils imposent le modernisme. Donc ils sont plus ou moins radicaux et plus ou moins rapides. Je distingue donc trois tendances doctrinales chez ces pseudo-cardinaux modernistes. La première, c'est la tendance conservatrice, façon Ratzinger-Benoît XVI. On avance lentement, on donne parfois quelques grains à moudre aux tradis, mais on avance tout de même camouflé. Qu'est-ce que je vise en disant cela ? Je vise le fait qu'on fabrique une contre-argumentation sophistique pour contrer les objections catholiques. Exemple. Quand Mgr Lefebvre, c'était sous Vostila, adresse des doubias à Ratzinger, qui était à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Ratzinger défend la liberté religieuse, donc avancée moderniste, mais, il construit toute une contre-argumentation sophistique pour essayer de le valider catholiquement parlant. Bien entendu, c'est bidon. Mais il tente le coup. Et quand Archidiacre fait une vidéo pour défendre la liberté religieuse, que fait-il ? Il reprend l'argumentation sophistique pondue par Ratzinger et opposée à l'époque à Mgr Lefebvre. Donc première tendance, les conservateurs. Deuxième tendance, la tendance bergolienne. Là, on avance rapidement, mais toujours en étant camouflé. Donc on avance rapidement en faisant des transgressions doctrinales. Mais cette transgression doctrinale, prononcée et visible, est accompagnée d'une contre-argumentation sophistique. Exemple, la bénédiction des couples homosexuels, on l'a vu tout à l'heure par la secte moderniste d'Amphitia Supplicans. Quand je débat face à Mathieu Lavagna, il m'oppose la contre-argumentation sophistique faite par Tucho dans les documents sur la distinction union, couple, patati patata. Vous voyez, donc, transgression doctrinale, mais en même temps, on produit un camouflage pour donner du grain à moudre aux personnes qui veulent défendre la secte moderniste contre les objections catholiques. Donc deuxième tendance, tendance bergolienne. On avance rapidement, mais en étant camouflé. Troisième tendance, on va appeler ça la tendance progressiste assumée. On avance rapidement et on ne prend même plus la peine de camoufler l'hérésie. Voilà. Alors là, je vous donne un exemple qui est fabuleux, qui est celui du cardinal Ulrich, Jean-Claude Ulrich. Et je ne vous cache pas que si la Providence permet qu'il y ait un nouveau faux pape moderniste, j'espère que ça sera lui. Parce que lui, c'est un tueur à gages. Je crains malheureusement qu'il rende fou nos détracteurs, mais lui, c'est un tueur à gages. Alors, le 2 février 2022, alors je précise que le cardinal, entre guillemets, Ulrich, est cité par le journal de l'extrême-gauche La Croix comme citation « Un homme de confiance de Bergoglio ». Donc déjà, ça promet. Hein. Et donc, le 2 février 2022, ce cardinal Ulrich, qui était également rapporteur général du synode sur la synodalité, se confie à l'agence allemande Katholische, alors bon là, excusez-moi, c'est Nachrichten, bon je sais pas quoi, bon voilà, à une agence, entre guillemets catholique, agence de presse allemande. Et il parle de la condamnation de l'homosexualité par l'Église. Et l'intéressé se prononce mot pour la révision fondamentale de la doctrine de l'Église sur l'homosexualité. Donc pour son approbation. Citation. Je crois que le fondement sociologique et scientifique de cet enseignement n'est plus correct. Donc là, c'est un vrai moderniste. C'est-à-dire que la vérité change en fonction du temps. Mais la condamnation de l'homosexualité, elle n'est pas seulement sociologique et scientifique, elle est dans la révélation. C'est du dogme. Lisez le catéchisme Saint Pie X. Les mœurs contre nature crient vengeance devant Dieu. C'est dans le catéchisme Saint Pie X. C'est pas que de la sociologie et de la science. Bon. Il poursuit. Il n'y a pas d'homosexualité dans le Nouveau Testament. Il n'est fait mention que d'actes homosexuels qui étaient en partie des actes rituels païens. C'était bien sûr interdit. Je pense qu'il est temps de procéder à une révision fondamentale de la doctrine. Il écrit ça en 2002. 3 ans plus tard, on a Fiducia Supplicans. Donc, la révision de la doctrine moderniste sur l'homosexualité est enclenchée et elle ira sans doute plus loin. Donc là, il n'y a pas de contre-argumentation sophistique. L'intéressé, il vous pose son hérésie sur la table et il l'assume parfaitement. Je préfère cette attitude, elle est plus franche. Donc je répète, il y a 3 tendances. Conservatrice, on avance lentement et camouflé, c'est-à-dire avec une contre-argumentation sophistique. Deuxième tendance, bergolienne, on avance rapidement, on fait des transgressions doctrinales fortes par rapport à la foi, fortes et manifestes, mais on l'adosse à un camouflage, c'est, je le répète, cette contre-argumentation sophistique. Troisième tendance, progressiste assumée. Et on fait une grosse transgression doctrinale, mais on la vend à l'état brut, sans essayer de faire passer la pilule avec une contre-argumentation sophistique. Voilà. Alors, maintenant, chers amis, je vais vous lire un texte qui a été écrit par l'abbé Barthes au sujet du pseudo-cardinal Pietro Parolin. Alors, l'abbé Barthes, c'est un prêtre validement ordonné, puisqu'il a été ordonné par Mgr Lefebvre. Et il a été sédévacantiste pendant près de 30 ans. Mais malheureusement, il a abandonné la foi et il a rejoint la secte moderniste en 2005. Puisqu'il faisait, il a dit à une personne qui me l'a rapporté, qu'il avait fait ça par ratzingerisme volontariste. Je crois que c'était sa formule à l'époque. Alors, bon, c'est un long processus qui a fait que l'abbé Barthes, malheureusement, a rejoint les modernistes. Mais que s'est-il passé? En fait, un prêtre qu'il a connu, bien connu, m'a dit ceci. Donc, que dans les années 90, l'abbé Barthes et l'abbé Lucien, donc, qui était également un ancien cédévacantiste, et peut-être aussi d'ailleurs l'abbé de Blinière, donc dans les années 90, sont allés voir Ratzinger à Rome. Ils ont eu accès à lui grâce à une dame cédévacantiste allemande qui s'appelait Madame Elisabeth Gerstner, qui était une grande famille, qui était une famille très riche, puisque son mari, je crois, avait fait fortune dans l'autre Cologne, un truc dans le genre. Bon. À l'époque, Madame Gerstner, qui pensait bien faire, avait organisé cette rencontre pour que les trois prêtres convertissent Ratzinger. Mais que s'est-il passé? Ratzinger les a embobinés. On se souvient, chers amis, que Mgr Lefebvre surnommait Ratzinger le serpent. Hein, donc c'était un homme malheureusement habile, Ratzinger. Beaucoup plus dangereux que Bergoglio, puisque Bergoglio n'aurait pas fait apostasier l'abbé Lucien, l'abbé Barthes et l'abbé de Blinière. Bon. Bref, on voit beaucoup à TV Liberté, sur diverses chaînes YouTube. Il serait intéressant que vous expliquiez en quoi le cédévacantisme, selon vous, est faux et quels sont les arguments qui, au milieu des années 2000, vous ont fait comprendre que finalement le cédévacantisme était faux. Je pense que ça intéresserait vos fidèles et ça m'intéresserait aussi. Voilà. Bref, prions, chers amis, pour l'abbé Barthes, pour qu'il nous rejoigne dans le combat et qu'il retourne au bercail, si j'ose dire. Mais par ailleurs, l'abbé Barthes peut faire des textes intéressants, donc là j'en ai un sous la main, et je vous le lis. Je vous en lis en tout cas des extraits. Donc, texte consacré à Parolin. Donc, Parolin est aujourd'hui l'un des plus grands favoris pour la succession de Bergoglio. Pourquoi? Parce que pour être élu dans un conclave moderniste, théoriquement et officiellement, il faut atteindre un quorum de près de 80% des voix. Ce qui demande de créer autour de soi un relatif consensus. Or, ce consensus, il est très difficile à un cardinal de tendance conservateur ou à un cardinal de tendance progressiste de l'obtenir. Il se dit que Bergoglio aurait voulu réduire ce quorum pour donner plus de chances aux progressistes assumés. Bon, apparemment, il ne va pas avoir le temps. Voilà, donc, lisons ce texte au sujet de Parolin. Donc, Pietro Parolin, qui prendrait, dit-on, le nom de Jean XXIV, ça aussi, ça promet, évoqué par Bergoglio, serait dans la parfaite continuité de ce dernier, mais dans un style moins désordonné, plus administratif. Parolin serait un Bergoglio plus efficace. Je précise que c'est moi qui dis Bergoglio et non pas François. Et non pas à la place de François, et non pas l'abbé Barthes, bref. Donc, entre guillemets, ordonné en 1980, donc invalidement, pour le diocèse de Vicence en Vénétie, il entra dès 1986 dans les services diplomatiques du Saint-Siège. Grand travailleur, Pietro Parolin a acquis d'emblée, sous la direction de son mentor Silvestrini, une grande connaissance de la curie au plus haut niveau, en même temps que des chancelleries du monde. Il servit dans diverses nonciatures, puis revint à Rome en 1992, le cardinal Sodano étant devenu secrétaire d'État. Il fut nommé sous-secrétaire pour les relations avec les États sous Jean-Louis Torrent, qui avait succédé à son patron Silvestrini et se signala par son savoir-faire dans des tractations délicates. Mais le cardinal Bertone, devenu secrétaire d'État de Benoît XVI, le disgracia et le remplaça par l'un de ses fidèles, Ettore Balestero. Devenu entre guillemets « pape », Bergoglio se laissa facilement convaincre par les cardinaux Silvestrini et Torrent d'appeler en août 2013 ce diplomate chevronné de sensibilité libérale pour remplacer celui qu'il avait exilé, le cardinal Bertone. Donc, en 2013, Bergoglio fait de Bertone son entre guillemets « premier ministre » et le nomme secrétaire d'État. Le gros handicap de Parolin est le désastreux accord du Saint-Siège avec la Chine. Bien plus professionnel que son prédécesseur Bertone, Parolin a cependant stupéfié le monde par l'irénisme de l'accord qu'il a passé avec la République populaire de Chine le 22 septembre 2018 et dont les termes sont secrets. Il faut dire que la situation du catholicisme chinois est complexe, puisque en Chine, chers amis, avant Vatican II, il y avait l'église chinoise officielle persécutée et une église inventée par les communistes de l'association patriotique qui visait à détourner les catholiques donc vers cette secte. Hein. Donc, l'abbé Barthes évoque l'opposition farouche de l'héroïque église clandestine vis-à-vis de l'église contrôlée par le pouvoir. Mais, au sein de cette dernière, les lignes sont souvent brouillées. Déjà sous Jean-Paul II, bien que nommé par l'association patriotique, un certain nombre d'évêques demandaient en secret à Rome leur reconnaissance par Rome. Voilà. Donc, des évêques, entre guillemets, nommés par, enfin, issus de la secte créée par le Parti communiste chinois, voulaient leur reconnaissance par le Saint-Siège moderniste. L'accord parolin de 2018, signé pour 2 ans et prorogé en 2020-2022, concédait aux autorités chinoises, on s'accroche, la présentation des évêques à investir par Rome. C'est-à-dire que c'est le Parti communiste chinois, ennemi de l'Église, qui propose les noms des évêques à investir par Rome. En vertu de cet accord, ont été réintégrés dans la commission romaine les 7 derniers évêques officiels, donc issus de la secte créée par le Parti communiste chinois, dont il s'est trouvé que 2 étaient mariés, chers amis. 2. Donc, dans la secte moderniste, contrairement à ce qui se passe dans l'Église, il y a des évêques mariés. Nouvelle différence substantielle entre l'Église et la secte. En outre, les évêques clandestins non approuvés par les autorités communistes, étaient écartés du gouvernement des diocèses. Ceci provoqua des critiques scandalisées, notamment des cardinaux Zen et Müller. Il faut y insister. Le pacte en question accorde à des communistes toujours persécuteurs de l'Église la nomination des évêques. Mais comment on peut accepter ça, chers amis, quand on se dit catholique? C'est pas sérieux. Donc, par ailleurs, Parolin, en 2018, du 7 au 10 juin d'ailleurs, à Turin, a été invité par qui, je vous le donne en mille, par le groupe de Bilderberg. Donc ça veut dire que Parolin est poussé à la fois par les communistes et à la fois par les mondialistes déclarés tendance Bilderberg. Ceci étant, Parolin a été l'objet d'une relative disgrâce par Bergoglio. Pourquoi ? Parce que Parolin a manœuvré pour torpiller en partie la réforme de la curie de Bergoglio. Et également parce que il y a eu des magouilles financières, semble-t-il, avec, je parle sous toute réserve parce que je crois que l'intéressé n'est pas officiellement condamné, autour du cardinal Angelo Becciu, des affaires immobilières à Londres, etc., qui sont mal passées. Et Parolin, nous dit-on, disent certains, aurait une responsabilité indirecte dans tout cela. Voilà. Donc, Parolin qui a contribué au document Amoris Laetitia et Traditionis Custodes, a été mis à l'écart pour la rédaction du texte Laudate Deum. Par ailleurs, Parolin a eu un cancer, donc malgré sa relative jeunesse de 70 ans, nous dit l'abbé Barthes, il peut faire un bon candidat parce que les cardinaux n'auront pas un, entre guillemets, pontificat trop long avec lui. L'abbé Barthes ensuite revient sur un discours de Parolin donné à la Catholic University of America le 14 novembre 2017, qui est un éloge de Vatican II. Parolin nous dit 2 choses. Premièrement, oui, Vatican II est une rupture. Deuxièmement, sous le pseudo-pontificat de Bergoglio, on a réharmoniser, je dirais, la doctrine avec la morale. C'est-à-dire que les pseudo-pontifes conciliaires avant Bergoglio ne s'étaient pas attaqués à la morale. En tout cas, pas directement, me semble-t-il. Un petit peu Paul VI, si, puisqu'il a autorisé l'incinération. Mais globalement, ils avaient conservé la morale. Bergoglio, lui, a très largement transgressé la morale catholique, notamment dans Amoris Laetitia, où il autorise la communion des divorcés remariés. Bon. Donc de personnes qui vivent en état de péché mortel, je rappelle. Hein. Bon. Donc, citation. Pour Pietro Parolin, le Concile Vatican II est source et origine de l'Église, d'aujourd'hui et de celle du futur. les pères y ont adopté un paradigme nouveau. Alors, citation, parce que je suis allé un petit peu regarder la conférence de Parolin, elle est sur YouTube. Il nous dit que Vatican II conserve pour l'Église un caractère prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc ? En bon François, qu'est-ce que ça veut dire ? Et il nous dit une phrase typiquement moderniste. Il nous dit que Vatican II est donc une nouvelle conscience d'une Église qui se réalise historiquement dans des contextes culturels plus divers. Ça, c'est une phrase typiquement moderniste, c'est-à-dire qu'en fonction du temps et des cultures, l'Église a une nouvelle conscience d'elle-même et donc une nouvelle doctrine. Bon. Donc Pietro Parolin, citant Monseigneur Doré, pour lequel après Vatican II, citation, rien ne sera plus jamais comme avant, de même que l'Église était passée à l'origine, selon lui, du judéo-christianisme. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Au pagano-christianisme, rebelote, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On ne sait pas. A fait donc, lors de Vatican II, une mue tout aussi radicale. Processus, citation, irréversible, martelait le cardinal qui soulignait que, parmi les nouveautés de Vatican II, mises en lumière par Bergoglio, était l'introduction de la synodalité qui rééquilibre l'organisation monarchique anté-conciliaire. Mais à côté de l'aspect communication de la synodalité, pour lui, l'essentiel du présent pontificat se trouve dans l'harmonisation réalisée par Amoris Laetitia. Existait une contradiction. Vatican II avait adopté une ecclésiologie libérale, œcuménisme, liberté religieuse, etc. Mais Paul VI, avec humanité, avait conservé une morale conjugale à l'ancienne. Petite parenthèse, il n'avait pas le choix, puisque si à l'époque il avait été aussi lent que Bergoglio, les catholiques auraient ouvert les yeux. Donc à l'époque, il devait encore donner des gages bon, sur ces questions. Amoris Laetitia, dont je ne cesse de vous parler, a effacé ce hiatus en engageant également la morale vers une ouverture libérale. On notera que Pietro Parolin a sanctuarisé cette ouverture en faisant inscrire le 7 juin 2017 aux Acta Apostolique et Sedis, au titre de magistère authentique, la louange adressée par Bergoglio aux évêques argentins pour leur interprétation ultralibérale d'Amoris Laetitia. Parenthèse, Amoris Laetitia était officiellement déjà du magistère ordinaire, donc c'était déjà officiellement infaillible. Bon. Cette défense de la nouvelle Lex Orandi, en sa plénitude, se manifeste comme il se doit par une défense de la nouvelle Lex... cette défense de la nouvelle Lex Credendi, voilà, en plénitude, se manifeste comme il se doit par une défense de la nouvelle Lex Orandi. La liturgie réformée suite au concile. Le cardinal Parolin a joué un rôle clé comme secrétaire d'État dans l'élaboration de Traditionis Custodes. Il a fait aussi un jeu de mots, semble-t-il, en français, où il dit qu'il faut se débarrasser pour toujours de la messe de toujours, un truc comme ça. Je poursuis. Une très grande discrétion avait été imposée aux membres de l'Assemblée d'octobre 23, du synode sur la synodalité. Mais on sait que Parolin y avait fait une intervention décrite comme très forte et très franche, qui avait beaucoup marqué l'assistance, mais sans qu'ait été divulgué son contenu. Il y aurait défendu la doctrine qui doit être placée au cœur de la synodalité. Il paraît vraisemblable qu'il a tenu un discours de recentrage en harmonie avec la pensée de Bergoglio, qui tient à marquer ses distances avec le chemin synodal allemand. De vous à moi, la distance, il la tient de moins en moins, puisque le chemin synodal allemand avait commencé par bénir les couples homosexuels. Dans un premier temps, Bergoglio avait condamné, enfin en tout cas, la congrégation par la quinte de la foi l'avait condamné, et Bergoglio, par la suite, l'a approuvé. Donc vous voyez, quand on est moderniste, on change de doctrine en fonction du temps. On peut d'ailleurs comprendre la lourde machine synodale romaine comme un processus de transaction entre Rome et l'Église allemande, ou plutôt entre les Bergoliens exagérés, Ulrich, dont je vous ai parlé, proche de l'Allemagne, et les Bergoliens réalistes, Parolin, ces derniers exprimant la pensée du souverain pontife. Au fond, Parolin offre la version institutionnelle du bergolianisme, celle d'une ouverture aussi large que possible, sans mettre trop l'institution en péril. Donc en somme, c'est du modernisme un peu plus subtil. Donc Jacopo Scaramuzzi, dans la Repubblica du 25 octobre 2023, classait les cardinaux importants, au nombre desquels les papables, en 5 groupes. Si on laisse les outsiders, c'est une citation, venus des pays lointains et souvent indéfinissables, il reste 4 groupes bien caractérisés. Les bergoliens de fer, les bergoliens les plus avancés, donc Luis Antonio Tagle, donc, lui, Tagle, c'est un entre guillemets cardinal philippin, qui est aussi parmi les favoris, et Jean-Claude Ulrich. Les bergoliens de l'axe institutionnel, plus réaliste, Parolin, Ouellet, Roche. Les cardinaux que l'on pourrait qualifier de libéraux centre-gauche, tels Matteo Zuppi, Jean-Marc Evelyne. Alors, Zuppi aussi, c'est un champion. Hein. Je vous le dis, je préférerais Zuppi à Parole, hein, si la Providence permet un nouveau usurpateur moderniste. Et les conservateurs, donc les pseudo-cardinaux, donc Erdo de Budapest, Sarah, Müller, Burke, Eschk, je ne sais pas si c'est de l'hollandais, donc voilà, et Timothy Dolan. Si la pesée des voix se faisait aujourd'hui, où l'aiguille de la balance s'arrêterait-elle ? Personne ne saurait le dire. Mais après l'autoritarisme bulldozer du présent pontificat, entre guillemets pontificat, le professionnalisme méticuleux de Parolin pourrait passer pour acceptable à des cohortes de cardinaux cherchant un papable ouvert, mais présentant selon eux le minimum de risques. Autrement dit, présentant le maximum de risques pour l'Église. Cette formule-là est très bonne, monsieur l'abbé Barthes, je vous le reconnais. Voilà. Donc effectivement, quand on a un raisonnement purement humain, effectivement, Parolin est favori. Parce que c'est un bergolien, parce qu'il rassure de par son CV, et parce que il peut avoir les progressistes avec lui grâce à sa doctrine, et il peut avoir les conservateurs avec lui grâce à sa méthode plus douce que Bergoglio. Voilà. Mais n'est-ce pas, chers amis, un raisonnement trop humain ? Je pose la question, j'en sais rien. Mais moi, j'ai quand même l'impression que la secte moderniste, ces derniers temps, est allée très très vite. Très très vite. Si elle souhaite conserver ce rythme, un Zuppi ou un Ulrich serait beaucoup plus approprié qu'un Parolin. Voilà. Donc, en tout état de cause, si nous avons un usurpateur moderniste, le mieux serait d'avoir un usurpateur moderniste qui nous permette de toujours divulguer le mal avec le plus de facilité. Plus le mal se voit, moins il est dangereux. Rappelez-vous Léon XIII dans sa Discognitum. Les hérésies qui nient peu de points de la foi ou peu de dogmes sont beaucoup plus dangereuses que celles qui en nient des pans entiers. Parce que les personnes de bonne volonté, face à la négation de pans entiers du dogme, rejettent l'hérésie. En revanche, ils peuvent être trompés par une hérésie subtile. Donc espérons, si la Providence permet qu'il y ait un nouvel usurpateur moderniste, que celui-ci, passez-moi la formule, envoie la sauce. Voilà. Et donc, moi, je préférerais un Ulrich à un Parolin. Voilà. Périodiquement, je ne sais pas ce que vous préférez, vous. Mais il faut espérer, si, je le répète, la Providence permet qu'il y ait un nouveau usurpateur moderniste, que cet usurpateur moderniste nous permette de voir très clairement le mal. Qui succédera à Bergoglio ? Eh bien, ma foi, nous verrons, chers amis. Et qui sait, peut-être que la Providence nous réserve encore d'autres surprises. Nous verrons. Nous verrons et nous aviserons. J'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions intelligentes, Pierre Thiermont ? Intelligentes, hein ?
Non, mais il y a notre cher Abfide Fidelis qui répond sa parole. Non, pas de...
Bah écoutez, questions. On va pas faire de zèle. L'émission était moins dense que d'habitude, mais elle était quand même un peu plus longue que prévu. Donc s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là.
Ça marche.
Donc chers amis, nous faisons aussi vite que nous pouvons pour publier mon ouvrage sur Vichy, mais il n'arrivera pas tout de suite. Hein. Et quand il arrivera, je ferai beaucoup d'interventions à ce micro pour en parler, parce qu'il y a énormément de sujets à soulever. Énormément, énormément, énormément. En même temps, parallèlement, vous le voyez, l'actualité spirituelle est bouillante. Donc, il faut se tenir prêt à réagir. Voilà. En tout cas, notre ligne à ce micro, vous le savez, c'est la défense publique. J'insiste sur ce mot. La défense publique de la foi et la défense publique des principes. Et nous n'en démordrons pas. Voilà. Merci à vous, Pierre de Thiermont. Et chers amis, je vous dis à dans 2 semaines.